dans l'évangile de Jean, chapitre 18, à partir du verset 33. Nous lisons « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Voilà, nous trouvons dans ces chapitres le récit des instants qui ont précédé la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frappés ici de découvrir cet homme, Pilate, gouverneur romain de la province de Judée. Nous sommes surpris de le voir rentrer et sortir à plusieurs reprises de sa résidence officielle, c'est ce que l'on appelait le prétoire, pour s'entretenir tour à tour avec le Seigneur Jésus-Christ et avec les Juifs. La réalité était que Pilate souhaitait relâcher Jésus, en lequel il ne trouvait rien de mal. De plus, il avait été averti par sa femme, qui en songe avait beaucoup souffert et qui, pressée par ce qu'elle avait vécu, lui avait enjoint de ne rien avoir à faire avec Jésus, qu'elle appelait le juste. C'est au cours de l'une de ces tentatives de relâcher Jésus que nous voyons Ponce Pilate le faire battre de bâton par les soldats. Pilate a après cela laissé les soldats romains revêtir le Seigneur Jésus-Christ d'un manteau de pourpre en raillerie, en imitation du manteau dont on revêtait les rois, et lui enfoncer sur la tête une couronne tressée avec des épines. Voyons Pilate, au chapitre 19, exhiber Jésus devant la foule des Juifs, couvert d'échymoses et de sang, probablement dans le but d'exciter la pitié de la foule, sa clémence, ou en tout cas dans l'espoir de la faire revenir sur sa décision. Cela n'aura pas lieu sous la pression des chefs juifs. La foule continuera à réclamer sa crucifixion. Dieu avait déterminé que son fils devait mourir pour nos péchés. Les paroles sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention cet après-midi se trouvent au verset 5 du chapitre 19, où, dans lesquelles, exhibant Jésus battu de verge, portant la couronne d'épines devant la foule, Pilate va dire aux Juifs « Voici l'homme ». La vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ ont souvent été marqués, en tout cas ils ont été marqués à plusieurs reprises, par des affirmations de personnes incroyantes qui, à leur insu, ont été guidés par Dieu pour prononcer des paroles qui prennent une valeur particulière. Par exemple, le souverain sacrificateur, Caïphe, a, en une occasion, déclaré qu'il était avantageux pour le peuple d'Israël qu'un seul homme meure pour le peuple. L'évangéliste Jean ajoutera qu'à son insu, Caïphe prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. De la même manière, Pilate, lui encore, lorsque Jésus-Christ sera crucifié, ordonnera que soit inscrit sur l'écriteau qui a été apposé sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. La parole que Pilate prononce ici, « Voici l'homme », revêt une valeur toute particulière lorsque, prenons le temps de la considérer, Dieu a guidé la bouche de Ponce Pilate. « Voici l'homme ». Vous savez que cette maxime est devenue célèbre dans sa version latine, la traduction de la Bible qu'on appelle la Vulgate, Ecce Homo, on appelle ainsi une série de tableaux qui ont été peints, dépeignant Christ, présenté à la foule. Un philosophe célèbre a intitulé sa propre biographie en utilisant ces mots. Mais ici, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Parlons de Jésus. Voici l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Il me semble que cette parole « voici l'homme » nous amène à réfléchir sur la parfaite humanité de Jésus. L'évangile de Jean, dans lequel nous avons lu cet extrait, a été écrit par l'apôtre Jean pour lutter contre une hérésie qui se répandait dès le 1er siècle, une hérésie qui tendait à nier le fait que Jésus est Dieu. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est une hérésie qui s'est reproduite par la suite, dans les siècles qui ont suivi, ce qu'on appelait l'arianisme, puis aujourd'hui encore, des gens nient la divinité de Jésus. Les témoins de Jéhovah nient sa divinité. Jean, dans l'évangile qui porte son nom, va s'efforcer de démontrer, au contraire, d'affirmer, d'insister sur ce fait. Au commencement était la parole, écrira-t-il, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Et Jean affirme, la parole, c'est-à-dire Dieu, a été faite chair. Jésus est Dieu. Mais Jésus est aussi parfaitement homme. Cela aussi, certaines hérésies ont tenté de le contester au cours des premiers siècles. Pourtant, c'est Paul, cette fois, qui écrira que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en devenant... En prenant la forme d'un serviteur, en prenant la forme d'un serviteur se rendant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme ou comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est un grand mystère. Vous voyez, Jésus est Dieu, Jésus est homme, voici l'homme. Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme, il n'est pas comme certains ont voulu le dire ou le croire, à demi-Dieu et à demi-homme. Non, il est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme. Voici l'homme. C'est ainsi que Pilate désigne le Fils de Dieu, qui s'apprête à livrer sa vie pour nous. Voici l'homme. Cette affirmation souligne aussi la compassion de Jésus-Christ. Il y a pléthore de textes dans l'Écriture qui nous montrent qu'en vertu de la nature humaine que Jésus a pleinement adoptée, volontairement, bien il peut nous comprendre parfaitement. Oh, il le pouvait en tant que Dieu, en tant que Créateur. D'une certaine manière, son identification avec nous l'amène à éprouver une compassion particulière. Vous voyez, cette affirmation de l'Écriture qui nous dit que nous n'avons pas en Jésus-Christ quelqu'un qui ne peut pas compatir à nos faiblesses, par exemple. Est-ce que nous sentons faibles ? Jésus peut comprendre, peut compatir. Ce texte qui dit aussi qu'un homme, comme Jésus-Christ, peut être animé de compassion pour les ignorants, pour les égarés. Est-ce que nous reconnaîtrions cet après-midi que nous sommes ignorants, égaré dans la vie, sachant que Jésus, malgré cela, à cause de cela, éprouve pour nous de la compassion. Puis encore, le fait qu'il se soit rendu semblable à nous en toute chose fait en sorte qu'il éprouve de cette miséricorde qui le rend miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Pouvons-nous approcher de Jésus-Christ avec l'assurance qu'il comprend, qu'il compatit, et si lui-même n'a commis aucun péché, et que nous avons fait tant d'erreurs, précisément parce qu'il n'a commis aucun péché, il éprouve pour nous une compassion parfaite. Plusieurs reprises, nous voyons Jésus dans l'Évangile manifester sa compassion à l'égard de ceux dont le chemin croisera le sien, ce lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lisons que Jésus a été ému de compassion avant d'étendre sa main sur lui et le guérir. Ou encore, l'Évangile nous dépeint Jésus présent devant cette foule qui, devant lui, est languissante et abattue. Lui, en tout cas, la voit comme telle. Et il nous a dit qu'il est ému de compassion, voyant que la foule est languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus encouragera ses disciples à prier le Père, Dieu le Père, pour qu'il chasse des ouvriers dans la moisson. Puis encore, devant le tombeau de Lazare, son ami, voyons Jésus pleurer. Fils de Dieu, voici l'homme. Voici l'homme. L'homme duquel nous pouvons nous approcher pour obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru, dit la Bible, dans tous nos besoins. Il me semble que cette parole, « voici l'homme », nous révèle aussi Jésus-Christ comme l'homme tel que Dieu le voulait. Voici, non pas un homme, mais voici l'homme. Autrement dit, l'homme tel que Dieu l'a créé, l'homme tel que Dieu le voulait. Jésus, qui de toute éternité existait en forme de Dieu, qui s'incarne, vient nous révéler ce que Dieu voulait voir en l'homme. Les premiers chapitres de la Bible relatent la création de l'homme par Dieu. Il nous est dit que Dieu a créé l'homme à son image, quelque chose qui nous dépasse. Bien sûr, il est question ici d'une image morale, d'une image spirituelle. Il y a un passage de la Bible qui nous dit qu'en voyant la création, depuis la création du monde, puissance éternelle de Dieu, sa divinité, se voit comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Pourquoi ? C'est parce qu'il existe aujourd'hui, malgré le péché, il continue à exister une affinité, voyez, entre l'homme et son créateur. Pouvons tous, nous devrions tous connaître quelque chose de Dieu, ne serait-ce que par la création, parce que Dieu nous a créés à son image. Pas l'inverse. Vous voyez, les hommes se sont fait parfois toutes sortes d'idoles, se sont inventés des dieux, que ce soit des dieux de métal fondu, de bois, ou des dieux dont ils se forment une image intellectuelle. Non, et Dieu a créé l'homme à son image. Et ce que l'homme est capable d'éprouver de bon, ce qui est bon et qui anime encore l'homme, malgré le fait que l'image de Dieu a été déformée, a été abîmée par le péché, bien nous parle de ce qu'est Dieu. Le sens que l'homme éprouve de la justice, ça nous parle, ça, du fait que Dieu est juste. Le fait que l'homme, même déchu, est encore capable d'éprouver de la joie, à donner, à partager, à éprouver de la bonté, à manifester, à témoigner de la générosité, nous parle de la bonté de Dieu, de sa générosité. Et toutes ces choses se sont trouvées parfaitement en Jésus-Christ. C'est le péché qui, dans la vie de l'homme, vient tout détruire. Vous voyez, il nous a dit que notre Père à tous, le premier homme, Adam, est tombé, il a délibérément transgressé le commandement de Dieu. Et ça a eu des conséquences immédiates pour lui, pour sa femme, Ève, conséquences au niveau individuel. Vous voyez, la communion que l'homme entretenait avec son Créateur a été cassée, a été brisée. L'homme a éprouvé de la peur. Les premiers chapitres de la Bible nous décrivent ces conséquences. Elles se manifestent immédiatement dans la génération qui suit. Caïn, le fils d'Adam et d'Ève, deviendra le premier meurtrier de l'histoire, en tuant son frère Abel, immédiatement. Le salaire du péché, c'est la mort, dans ce sens-là aussi. Et les mauvais sentiments, l'amertume, la jalousie, la rancœur, l'inimitié qui se manifeste entre les hommes, c'est le fruit du péché. Sur un plan individuel, sur un plan collectif, c'est le péché qui amène l'humanité, avant la manifestation du jugement de Dieu, le déluge, à avoir cette imagination, ces pensées qui se tournent continuellement vers le mal. Puis, collectivement, voyons cela aussi à la tour de Babel, où l'homme tente, par des efforts pourtant unis, voyez, de construire quelque chose, de se faire un nom, pour que ce ne soit pas le nom de Dieu, mais le leur qui soit élevé. C'est l'homme qui se rebelle contre son Créateur. Une parfaite image de l'humanité aujourd'hui, hein, qui, sous des abords parfois très, très trompeurs, très attrayants, sous une image d'unité, sous une image de la recherche d'une certaine paix, en réalité, se dresse souvent. Avez-vous remarqué comme l'humanité s'ingénie aujourd'hui à rejeter une par une les valeurs que Dieu a établies ? Au nom d'une tolérance, au nom d'un progrès, on enseigne aujourd'hui dans les écoles à nos jeunes gens et à nos jeunes filles que les valeurs que Dieu a instituées doivent être renversées. C'est la tour de Babel. Jésus, par sa vie, démontre, révèle l'homme tel que Dieu l'a voulu. Voici l'homme. Nous le voyons en tout soumis à la volonté de son Père, en toute chose. Nous voyons passer du temps pour chercher sa volonté. Nous voyons Jésus se nourrir, se rassasier des Écritures. Nous le voyons résister au mal dans un monde qui est tombé, qui est sous le coup d'un jugement consécutif au péché. Et l'obéissance de Jésus à son Père, Jésus qui dira « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Jésus qui affirmera que même les paroles qu'il prononce, ce sont celles qu'il reçoit du Père. Jésus pourra faire plier sa volonté, celle de son Père, même à Gethsémané, alors que Dieu lui demande quelque chose de terrible. Jésus n'a jamais été malheureux d'avoir soumis sa volonté à celle de son Père. Nous le voyons pendant son ministère terrestre, plein de force, plein de joie, triompher du mal, de ses adversaires, de l'adversité. Voici l'homme. Et cet après-midi, nous qui sommes présents à cette réunion, pourrions nous interroger et nous aimerions vous encourager, vous qui nous rejoignez, à vous interroger. Votre vie est-elle, ressemble-t-elle à celle de Jésus ? Vous qui venez régulièrement pour assister à des réunions, qui ouvrez la Sainte Écriture, la parole de Dieu, qui prenez plaisir à vous trouver là dans des réunions où des chrétiens s'assemblent, où des cantiques montent vers Dieu. Vous qui appréciez la bonté des chrétiens. La véritable question est la suivante. Est-ce que votre volonté, vous la soumettez à celle de Dieu? Est-ce que votre désir est de faire la volonté de Dieu comme le Fils, l'homme, tel que Dieu le désire? Ou, semblable à Adam, vous voulez faire votre volonté? Semblable à Caïn, le fait de vouloir appliquer votre volonté vous amène à éprouver du ressentiment, de la rancœur, de la jalousie qui pourrissent votre vie, qui empoisonnent votre cœur. Est-ce que vous marchez selon le train de ce monde ? Est-ce que votre entendement, votre réflexion est emporté par ce que le monde enseigne, de telle sorte que, oui, d'une certaine manière, ce que vous souhaitez, c'est voir renverser dans votre vie, autour de vous, les valeurs que Dieu a établies ? Voici l'homme. Dieu nous montre le chemin, celui qui nous ouvre la voie, celui qui nous montre un glorieux modèle. Si quelqu'un cet après-midi reconnaissait au fond de son cœur, de sa conscience, « Jusqu'à présent, je me suis fourvoyé, j'ai fait fausse route. » Pour avoir voulu faire ma volonté, pour n'avoir pas voulu soumettre volontairement, joyeusement, dans la foi, au fait que Dieu m'aime, au fait que Dieu désire ce qui est beau, pour n'avoir pas voulu volontairement soumettre ma volonté, je me suis fourvoyé, je me suis fait souffrir, j'ai offensé Dieu, j'ai fait souffrir ceux qui m'entouraient. Je vous propose de terminer en considérant cette pensée, que par cette parole « Voici l'homme », Dieu nous révèle aussi Jésus-Christ comme celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Dieu est celui que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et il est celui que Dieu a envoyé pour nous bénir. Voyez, pour détourner, est-il écrit, chacun de nous de nos iniquités, pour nous réconcilier pleinement, parfaitement avec le Père, dans cette vie, dès cette vie, et aussi pour l'éternité. Paul, cet homme de Dieu remarquable, écrira dans l'Écriture, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voici l'homme qui nous réconcilie avec Dieu, l'homme qui sert d'intermédiaire, le seul, puisque Jésus affirmera « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. Pourquoi fallait-il que Jésus-Christ soit homme pour nous réconcilier avec Dieu? Mais pour nous représenter, il s'identifie à nous, nous l'avons dit, et il nous représente, il fallait qu'il meure en sacrifice pour nos péchés. Dans un chapitre de l'Écriture, Jésus est appelé tour à tour le deuxième homme, ou plutôt le dernier Adam, puis ensuite le deuxième homme. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous avons parlé d'Adam, cet homme qui, par sa désobéissance, s'est fermé le ciel, fermé les portes de la bénédiction de la faveur de Dieu. Vous voyez, lorsqu'Adam désobéit à Dieu, lorsqu'il tombe, lorsqu'il chute, bien sûr, c'est lui, c'est sa femme qui en subissent les conséquences immédiates. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas eux seulement, c'est l'humanité tout entière. Parce que Adam portait en lui l'humanité tout entière. Aujourd'hui, que nous le voulions ou non, l'état du monde, l'état de l'humanité, cette rébellion dont nous parlons, sont les conséquences du péché de celui qui nous représentait. Tenez, regardez un enfant. Enfant, quand il naît, il est innocent. Un enfant qui naît n'a rien fait de mal. Mais regardez les mois, les années qui passent. Inévitablement, contrairement à ce que les philosophies, les religions du monde affirment, quand l'enfant parvient à l'âge de choisir, inévitablement, il finira par choisir le mal. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'est pas là. Parce que la vie de Dieu n'est pas là. Ça, c'est la conséquence du péché d'Adam. Adam qui nous représentait. Imaginez un peu, pour un exemple, il est bien imparfait pour représenter ces vérités solennelles. Mais imaginez que le président de la République française, c'est un homme unique, déclare la guerre à un autre chef d'État, à un autre homme. Ça se passe entre deux hommes. Mais les conséquences se vivront pendant des années à l'échelle du pays, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, plus jamais ne vivront la même vie, ou en tout cas sur des années à cause du conflit qui est décrété par deux hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes représentent le pays. Adam représentait les hommes. Or, Jésus, nous l'avons dit, nous est révélé comme le deuxième homme. Pourquoi le deuxième seulement? Il y en a eu des millions. Le deuxième homme, parce que c'est le seul, avec Adam. Il n'y en a eu que deux. Deux hommes, dans ce cas, qui nous représentent devant Dieu. Le dernier Adam, car il n'y aura plus jamais aucun homme dans ce cas. Jésus, parfaitement Dieu, contrairement à Adam, qui était une simple créature. Et Jésus, parfaitement homme, nous représente. Et il nous est dit que par son acte d'obéissance, sa mort sur la croix, par laquelle il efface, il ensevelit, il fait mourir, voyez ce que nous étions avant de connaître Dieu. Il ensevelit nos vies misérables, gâchées, loin de la volonté de Dieu, dans la rébellion. Il les fait mourir, il les ensevelit, il les fait disparaître. Et lorsqu'il ressuscite, et Jésus porte en lui, avec lui, ceux et celles qui croient, qui l'acceptent, qui le reçoivent. De telle sorte que l'Évangile affirme que si nous sommes prêts à croire ce message-là, à le recevoir cet après-midi, nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité en sa mort et une même plante par la conformité avec lui dans sa résurrection. C'est glorieux. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est le ciel qui s'ouvre. C'est la faveur de Dieu qui est recouvrée. C'est ce que nous offre Jésus-Christ si nous en reconnaissons le besoin, si cet après-midi nous venons à lui. Voici l'homme. Je termine en disant que dans cette parole de Pilate, voici l'homme. Pilate ne comprend pas, Pilate ne le réalise pas, mais il y a aussi un acte de démonstration. Voici l'homme. Sur la croix, Jésus est montré. Parole de l'évangile de Jean nous dit que le Christ affirme que quand il aura été élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Voici l'homme, il est montré comme agonisant, souffrant sur la croix. L'ignominie de la haine et de la mort et de la honte. Mais aussi, par sa résurrection et par l'ascension, Jésus va monter. Il va être élevé de la terre. Et aujourd'hui, il nous est dit que depuis cette résurrection, toutes choses lui ont été soumises. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a été élevé à la droite de la majesté divine dans les cieux, d'où il nous parle cet après-midi, dans notre conscience, par le Saint-Esprit, pour nous sauver. Et puis, élevé de la terre, voici l'homme, Jésus l'est aussi par la prédication de l'Évangile. Dans tous les lieux où, comme cet après-midi, nous ouvrons l'Écriture, nous considérons la parole de Dieu, Jésus est élevé devant nous, comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert pour que tous les Israélites qui avaient été mordus puissent, d'un acte déterminé, volontaire, un regard porté sur lui, être guéris de leur mal et recevoir la vie. N'aimeriez-vous pas cet après-midi porter les regards de la foi sur Jésus-Christ pour avoir la vie? Voici l'homme, celui que Dieu a envoyé pour vous sauver, celui qui croit en lui à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je propose que nous nous recueillions quelques instants pour prier. Merci, notre bon et tendre Père Céleste, pour le don précieux de Jésus-Christ. Te prions, Seigneur, pour que par ton bon esprit, au-delà des mots humains que nous prononçons, Jésus-Christ soit réellement cet après-midi dépeint comme crucifié. Que la puissance de sa résurrection puisse être comprise par une âme qui reconnaît son besoin de salut, de relèvement, de purification. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui communique la vie, qui rend la vie à l'âme qui est morte. Te bénissons de ce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts spirituellement entendent la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivent. Te prions de communiquer abondamment cette vie, Seigneur, à ceux qui en ont besoin dans ce lieu. Nos yeux sont sur toi parce que c'est toi qui fais l'œuvre. Amen.